Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le Sénat américain devrait basculer du côté démocrate, c'est ce que semblent indiquer les résultats encore officieux de l'élection sénatoriale en Géorgie. Et le Congrès américain s'apprête à entériner la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Mais Donald Trump n'est toujours pas résigné, il rassemble ses partenaires à Washington. Nous irons aux États-Unis dans un instant. Juste après l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne donne son feu vert au vaccin Moderna. On fait le point avec Angélique Bouin à Bruxelles. Améliorer la productivité pour réduire les écarts de compétitivité avec les concurrents, c'est l'argument du groupe Michelin pour justifier l'annonce de 2300 suppressions de postes en France, dossier suivi par Hakim Kasmi. Et puis plusieurs versions s'opposent après la mort d'une vingtaine de personnes dimanche dans le centre du Mali. L'armée française affirme avoir neutralisé des djihadistes. Les autorités maliennes se taisent. On essaiera d'en savoir plus avec Olivier Poujade. La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine doit être entérinée aujourd'hui par le Congrès américain, mais Donald Trump crie toujours à la fraude. Le président sortant rassemble ses partisans à Washington. Ils sont des milliers réunis dans la capitale américaine, criant des slogans comme « On veut Trump » ou « Stop au vol ». Souvent sans masque, ils se disent donc convaincus que l'élection a été volée par les démocrates. Pourtant, Joe Biden prendra bien ses fonctions le 20 janvier. Il devrait d'ailleurs pouvoir s'appuyer sur un Sénat à majorité démocrate, car leur victoire en Géorgie se précise. Victoire qui serait historique dans cet État du Sud, traditionnellement conservateur, mais qui avait déjà élu Joe Biden président le 3 novembre. Hier, une double sénatoriale cruciale a donc eu lieu. Elle est décisive pour le contrôle du Sénat, Loïc Lurie. Un premier démocrate avait été donné vainqueur dès hier, Raphaël Warnock, et le second a annoncé lui-même ce matin sa victoire.
Oui, absolument. John Ossoff n'a pas attendu la proclamation des résultats par les médias américains. Son avance est faible sur son adversaire David Perdue, un 0,5% à peine. Mais les bulletins qui restent à dépouiller lui seront a priori globalement favorables. Alors Ossoff s'est donc exprimé, prise de parole de quelques minutes, pour remercier avec humilité, dit-il, les Géorgiens. C'est un discours de sénateur, adressé donc d'abord à son État. Mais c'est aussi un appel à l'unité qui fait écho à la situation politique nationale après 4 ans de présidence Trump.
Unissons-nous à présent pour battre ce virus et voter des aides rapidement pour les gens de cet État et pour tous les Américains. Que vous ayez voté pour moi ou contre moi, je serai pour vous, au Sénat, un serviteur de chacun des habitants de cet État. Je donnerai tout ce que j'ai pour que les intérêts de la Géorgie soient représentés. Voilà, victoire historique en Géorgie, si elle se confirme, qui donne surtout de l'air à Joe Biden, puisqu'avec ses 2 sièges, eh bien, les démocrates reviennent à 50-50 à la Chambre haute. Et ce sera à Kamala Harris, la vice-présidente de tranchée, donnant à Biden un avantage décisif. Les démocrates, en effet, auraient la main sur la Maison-Blanche, sur la Chambre des représentants et sur le Sénat, une première depuis 10 ans. Au-delà du symbole, cela signifie que Joe Biden, certes avec une majorité étriquée, devrait pouvoir mener les réformes qu'il souhaite, en tout cas ces 2 prochaines années.
Loïc Lurie à New York pour France Culture. On a encore du mal à y voir clair après l'attaque qui a fait 20 de morts dimanche dans le centre du Mali. Des habitants du village de Bounti affirment que des frappes ont ciblé des civils qui assistaient à un mariage peul. L'armée française, elle, dit avoir neutralisé 20 de djihadistes dans un raid aérien au-dessus de cette région. Quant aux autorités maliennes, elles se taisent. Les dernières précisions dont nous disposons proviennent d'un communiqué diffusé cet après-midi, Olivier Poujade, communiqué diffusé par les équipes de Médecins sans frontières au Mali.
Les responsables d'MSF ne livrent logiquement qu'un bilan médical chiffré de leur intervention à Bounti et ne se risquent à aucun commentaire sur le scénario de cette attaque sanglante. 2 véhicules de l'ONG se sont rendus sur place pour venir en aide à 8 personnes souffrant de lésions consécutives à une explosion, précise le communiqué, qui mentionne également des blessés par balle. Une information qui exclut de fait une opération ayant uniquement mobilisé des avions de chasse Mirage, comme l'affirmait hier l'état-major de l'armée française. En revanche, ce diagnostic d'MSF va dans le sens des témoignages de certains villageois évoquant le survol à basse altitude d'un hélicoptère peu avant les frappes. À l'heure qu'il est, plusieurs questions restent sans réponse. À quel contingent appartenait cet hélicoptère? Celui de Barkhane ou celui des forces armées maliennes? Y a-t-il eu ce jour-là 2 opérations dans la même zone? Le succès militaire neutralisant des djihadistes mis en avant par les Français et cette bavure ayant provoqué la mort d'une 20aine de civils lors d'un mariage peul, une réalité décrite par les habitants du village de Bounti, dont les auteurs n'ont toujours pas été identifiés.
Olivier Poujade. Déception pour Julian Assange et ses soutiens. La justice britannique refuse d'extrader le fondateur de WikiLeaks vers les États-Unis, mais elle le maintient en détention. Il faut dire que les autorités américaines ont notifié au tribunal leur intention de faire appel et, au regard du comportement passé de Julian Assange, la juge estime qu'il pourrait de nouveau vouloir se soustraire à la justice, Marie-Pierre Véraud.
À l'annonce de la décision, une poignée de militants réunis devant la cour de Westminster laissent éclater leur colère.
Elle le renvoie à Belmarsh. Il va mourir. C'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent le tuer.
Comment peuvent-ils le renvoyer dans l'enfer de Belmarsh? J'ai parlé à son père, John Shipton, qui m'a dit qu'il n'avait droit qu'à un seul coup de fil à son fils de 10 minutes chaque mois. C'est absolument scandaleux.
La juge avait pourtant soulevé l'espoir des avocats de Julian Assange lundi en refusant de l'extrader vers les États-Unis en raison de son état dépressif. Mais elle a estimé que le risque de fuite était trop grand s'il était remis en liberté. Christine Ramson de WikiLeaks fait part de son incompréhension.
C'est injuste, abusif et illogique. Il y a deux jours, la même justice a refusé d'extrader Julian en raison de sa mauvaise santé, qui est justement due à son incarcération dans la prison de Belmarsh. L'y renvoyer n'a aucun sens, c'est inhumain et illogique.
L'accusation a mis en avant l'asile offert par le Mexique et les arguments de l'avocat de Julian Assange, ses enfants, cette famille qui l'attend ici n'ont pas pesé. Très émue, son épouse s'est tournée vers le président des États-Unis pour lui demander de gracier son mari. Le combat continue, ajoutent ses défenseurs, jusqu'à ce que Julian soit libre.
Marie-Pierre Véraud, reportage à Londres. La justice française accède à nouveau à une demande d'extradition de Youssou Ternera, formulée par l'Espagne. La Cour de cassation avait déjà accepté en novembre à deux reprises le principe d'une remise à l'Espagne de cet ancien dirigeant de l'UTA. Cette requête-ci, examinée par la Cour d'appel de Paris, portait sur l'assassinat en 1980 d'un cadre de Michelin à Vitoria, au Pays basque espagnol. Il n'y aura ni licenciement ni fermeture de site, affirme la direction de Michelin. Mais le groupe annonce la suppression de 2300 postes d'ici 3 ans en France, dans le cadre d'un plan de simplification et de compétitivité de ses activités. Il veut en effet mettre l'accent sur les industries de pointe à forte valeur ajoutée. Des annonces qui inquiètent les salariés à Kim Kasmi.
Si pour la direction de Michelin, la décision est des prises de longue date, pour les salariés, c'est le choc, car ils ne s'y attendaient pas du tout. D'autant que les 2300 suppressions de postes vont concerner l'ensemble des 15 sites français. Ils prendront la forme de départs en retraite anticipés ou bien de ruptures conventionnelles collectives. Pour Jérôme Lorton, délégué Sud, la direction de Michelin profite de la crise sanitaire pour accroître sa rentabilité.
L'entreprise a annoncé l'année dernière un résultat net d'1,7 milliard, a remercié et salué l'engagement des salariés pendant cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, sans justification, Michelin nous annonce une réduction des effectifs, alors même que personne s'attendait à une annonce pareille.
L'équipementier indique vouloir créer à l'avenir autant de postes qu'il va en détruire, notamment grâce à ses nouvelles activités dans l'hydrogène et le recyclage. Mais sans garantie de garder les mêmes conditions de travail, prévient déjà Joseph Tarantini, délégué central CFE-CGC.
Quelqu'un qui aujourd'hui a un poste de travail dans certaines conditions, dans le cadre d'une convention collective avec des conditions de travail et un contrat de travail qui demain va être complètement différent parce que la société qui va l'accueillir ne sera pas du tout dans le même contexte. Vous voyez, c'est une façon de dire oui, on recrée un poste un pour un, mais le point de vue qualitatif de la réalité de ce travail et de ce nouveau contrat de travail, c'est quelque chose qui va nous interpeller, hein, évidemment.
Bercy indique rester vigilant sur les engagements de Michelin, mais la fermeture récente du site Bridgestone, dans le nord de la France, nous montre bien les limites de l'exécutif face au secteur privé.
Merci Hakim. Vous avez également joint un spécialiste de l'industrie automobile, Bernard Julien, maître de conférences à l'Université de Bordeaux. Ce qui explique les difficultés de Michelin, d'après lui, c'est notamment la concurrence sur le marché des pneus d'entrée de gamme avec les pays d'Asie qui proposent des prix très bas. On écoute son analyse.
On a deux marchés, au fond, dans le pneumatique. Le premier, c'est celui qu'on appelle celui de la première monte. Donc là, il s'agit pour les pneumaticiens de vendre leurs pneus aux constructeurs. Et là, bah, évidemment, les constructeurs n'étant pas au mieux, ils exercent des pressions sur les prix qui sont considérables en 2020-2021. Et puis l'autre marché, c'est celui qu'on appelle celui de la seconde monte, c'est-à-dire le pneu de remplacement. Et là, bah, ce sont les ménages qui, n'ont pas beaucoup d'argent, deux ont des vieilles voitures et ont tendance, par conséquent, à privilégier les pneus les moins chers possibles. Évidemment, soumis à toutes ces contraintes, un pneumaticien comme Michelin, comme ses concurrents du reste, eh bien, ils cherchent à optimiser, comme ils disent, la localisation de leur production. Et ils vont systématiquement chercher les pays low cost pour produire ces pneus peu chers sur un marché où la technologie compte, certes, mais elle compte moins que les prix, d'où le recentrage de Michelin sur les produits les plus techniques, qui concernent le matériel militaire, qui concernent le matériel de chantier, le matériel agricole, etc. Mais sur la voiture, qui est quand même le cœur de l'affaire, eh bien là, on a une concurrence par les coûts qui conduit à ce que les pays à haut salaire soient marginalisés dans l'appareil industriel et pneumatique.
Bernard Julien, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. La Chine annonce la suspension de ses importations de volailles françaises. Décision prise à cause de la grippe aviaire qui sévit dans l'Hexagone, en particulier dans le sud-ouest, et tout particulièrement dans les Landes. Alors, la Chine n'est pas un gros importateur de volailles françaises, mais ça illustre la montée de l'inquiétude. Des abattages préventifs ont déjà porté sur des centaines de milliers d'animaux d'élevage. Mais la gestion de la crise par les autorités sanitaires est dénoncée par deux syndicats agricoles, la Confédération Paysanne et le MODEF. Ils s'opposent aux abattages préventifs d'animaux sains et dénoncent la lenteur de la mise en œuvre des abattages dans les foyers confirmés. La campagne de vaccination contre le Covid-19 commence tout juste aux Pays-Bas. C'est le dernier pays de l'Union européenne à se lancer. Les responsables avaient jusque-là mis en avant les difficultés logistiques et la nécessité d'une approbation du vaccin par les autorités nationales pour justifier le retard. À Bruxelles, la Commission européenne vient tout juste d'autoriser le vaccin Moderna. Annonce faite quelques heures seulement après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. C'est le deuxième vaccin autorisé en Europe après celui de Pfizer-BioNTech. Angélique Bois.
C'est un laboratoire de biotechnologie américain qui produit ce vaccin. Il a été testé sur un vaste panel de 30 000 volontaires avec un taux de réussite de plus de 94%, 90% pour ceux qui présentaient un risque grave de Covid, indique l'agence européenne. Comme celui de Pfizer, il se prend en deux doses et a été conçu avec la même technique innovante de l'ARN messager, mais il ne doit pas être stocké à très basse température, ce qui le rend plus facile à déployer et à utiliser. L'Union européenne en a précommandé 80 millions de doses et une option sur 80 autres millions, c'est presque deux fois moins que le Pfizer. Mais le laboratoire Moderna n'est pas adossé à un grand groupe pharmaceutique mondial. Il a donc une moindre capacité de production. D'autres vaccins viendront, promet la présidente de la Commission. L'Europe a précommandé près de 2 milliards de doses de vaccins potentiels, rappelle Ursula von der Leyen dans un communiqué, en promettant assez de vaccins sûrs et efficaces pour protéger tous les Européens. À Bruxelles, on attend désormais le feu vert pour le troisième vaccin jugé prometteur, est déjà utilisé par les Britanniques, notamment celui d'AstraZeneca, un vaccin ancienne génération, encore plus simple à conserver, mais sur lequel l'Agence européenne a encore besoin de récupérer des données scientifiques pour pouvoir se prononcer.
Angélique Bois à Bruxelles, et la flambée de contamination se poursuit au Royaume-Uni, l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par l'épidémie, est confronté depuis plusieurs semaines à un nouveau variant très contagieux du SARS-CoV-2. Plus de 1000 décès supplémentaires ont été recensés aujourd'hui. En France, le premier conseil des ministres de l'année a été en très grande partie consacré à la lutte contre le Covid-19 et lors de son compte-rendu ce midi, le porte-parole du gouvernement est longuement revenu sur la politique de vaccination. En réponse aux critiques sur la lenteur de la mise en œuvre des vaccins, l'exécutif passe à la vitesse supérieure, Antoine Maret, et le fait savoir.
Depuis ce matin, le nombre d'hôpitaux pouvant vacciner a été multiplié par 3. Dès la semaine prochaine, il y aura 300 centres de vaccination hors hôpitaux et 500 la semaine suivante. Ils vont être approvisionnés massivement par de nouveaux vaccins, explique Gabriel Attal.
Nous en aurons ce soir un total d'un million de doses et nous recevrons 500 000 doses supplémentaires par semaine pour ce qui est du vaccin Pfizer-BioNTech. J'ajoute que l'Agence européenne du médicament a rendu sa décision sur l'autorisation du vaccin Moderna et vous le savez, la Haute Autorité de Santé rendra son avis très rapidement, ce qui nous permettra également d'être approvisionnés pour ce vaccin à raison de 200 000 doses sur le premier mois, puis de 500 000 doses par mois.
Il y a donc les centres et les vaccins. Reste donc la question de la communication. Jusqu'à présent, le gouvernement a adopté une stratégie très prudente. Chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Va-t-il désormais encourager la vaccination auprès de Français souvent sceptiques ? Sur ce point, la réponse du porte-parole du gouvernement est pour le moins évasive.
Si nous n'avions pas assumé en transparence la part de connus et d'inconnus sur ces vaccins qui arrivaient, on nous aurait sans doute reproché d'avoir un discours qui ne tenait pas compte de cette donnée-là. Après, la nouvelle qui est tombée aujourd'hui s'agissant de l'Agence européenne du médicament est une bonne nouvelle et évidemment que nous fondons beaucoup d'espoir dans la vaccination pour mettre fin à cette crise et à cette épidémie en France comme dans le reste du monde.
Gabriel Attal insiste sur l'importance des élus locaux dans cette campagne de vaccination. Une réponse à leur critique à l'encontre d'un État jugé trop centralisé.
Antoine Marette, un nouveau rapport nous donne l'occasion d'estimer les conséquences économiques de la crise sanitaire. C'est celui du Conseil national de la productivité français. Composé d'économistes, il propose un point chaque année, comme tous les pays de la zone euro. Et même si cette crise est temporaire, le Conseil national de la productivité estime que les effets des restrictions sanitaires liées à la pandémie se ressentiront à long terme sur l'économie française, Marie Viennot.
Pendant les crises, ce sont les entreprises les moins productives qui sont éliminées. Les crises peuvent donc avoir un effet positif sur la productivité. Mais pas cette crise-là, car elle est inédite, précise d'emblée Philippe Martin, l'économiste qui préside le Conseil national de la productivité. Les aides de l'État ont eu pour effet de mettre l'économie en hibernation. Les faillites en 2020 ont chuté de 30%, mais c'est une situation temporaire, juge le Conseil national de la productivité. Le risque majeur, explique le Conseil, c'est que des entreprises productives disparaissent aussi dans la vague de défaillance qui vient. Et même si elles ne disparaissent pas, ces entreprises ressortiront très endettées de cette crise, car les prêts garantis par l'État ont certes permis de tenir, mais ce sont des prêts et ils ont gonflé les dettes. Or, une entreprise endettée a plus de mal à recruter, à investir, à innover. À long terme, elle est donc moins productive. Pour éviter ces effets néfastes à long terme, il faut dès maintenant réfléchir aux moyens de restructurer, c'est-à-dire alléger la dette des entreprises, explique ce rapport. Pour le moment, le gouvernement envisage de repousser les échéances de dette ou d'en accorder de nouveau. C'est une solution, mais cela ne change rien à l'endettement des entreprises, relève le Conseil qui suggère plutôt que les créanciers privés, banques, fournisseurs, bailleurs, soient incités à revoir leurs créances à la baisse.
Marie Viennot. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer se déclare incompétent pour juger la légalité du démantèlement d'un vaste campement à Calais. C'était le 29 septembre dernier. 800 personnes avaient été expulsées au petit matin d'un bidonville surnommé Hospital Jungle, à proximité du CHU de la ville. Le tribunal souhaite renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif. Les 8 associations d'aide aux migrants et les 11 exilés qui avaient assigné la préfecture du Pas-de-Calais pour voie de fait envisagent de faire appel. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Ces associations dénoncent la procédure de flagrance, un acte d'enquête utilisé selon elles de façon abusive pour évacuer les camps, Anne.
Oui, depuis 4 ans, en effet, depuis l'évacuation de la jungle sous le quinquennat de François Hollande, les autorités s'appuient sur cet acte d'enquête défini par les articles 53 et 54 du Code pénal et qui présente l'avantage de pouvoir intervenir dès la constatation d'un délit, ici l'occupation illégale d'un terrain. Sauf que pour les associations, les évacuations doivent être encadrées et contrôlées par un juge qui va vérifier le respect des libertés individuelles. Margot Siffre est intervenante auprès des migrants pour l'association La Cabane Juridique, requérante dans cette affaire.
En fait, pour nous, c'est comme s'il y avait une expulsion sans rien du tout, parce que la flagrance ne permet pas une expulsion. Et c'est pour ça que le préfet n'a pas essayé de dire que lui, il avait expulsé sur la base légale de la flagrance. Lui, il a complètement révoqué en disant non, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. C'est le procureur, en fait, qui a demandé cette expulsion parce que quelques jours avant, des forces de l'ordre ont constaté que ce terrain était occupé et il y a eu des procès-verbaux. Et ensuite, on a fait une enquête qui a été classée sans suite. Mais en fait, ces PV ont été inventés quelques jours auparavant, puisque le lieu de vie existe depuis bien longtemps, et ils ont été fabriqués à toutes pièces. Et pour nous, en fait, le procureur et le préfet ont travaillé ensemble parce qu'ils se sont rendus compte que cette expulsion n'était pas légale.
Pour la préfecture du Pas-de-Calais, cette opération avait constitué à l'époque une mise à l'abri à l'approche de l'hiver et la possibilité de lutter contre les passeurs. Mais les associations sont sceptiques car il y a eu, selon elles, contrainte envers les migrants. Le juge judiciaire s'est déclaré incompétent à juger ce midi et si appel il y a, les plaignants aimeraient voir émerger une jurisprudence pour éviter ces procédures en flagrance controversées et toujours utilisées actuellement dans le Calaisis.
Anne Fauquemberg, demain jeudi, le temps sera sensiblement le même qu'aujourd'hui. Quelques averses, un ciel couvert, en particulier dans le nord-est où il pourra neiger. Au petit matin, les températures seront souvent négatives. Les maximales atteindront 1 à 3 degrés sur le Grand Est, 6 à 10 près de la Méditerranée, 3 à 6 sur le reste du pays. Et jusqu'à 12 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.